Bonjour, c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous, amis fidèles des petites histoires de la grande aviation. André Japy a sans doute été l'un des meilleurs ambassadeurs de l'expansion de l'aviation lors des années 30, avant la Seconde Guerre mondiale. Il a mis en évidence les avions Caudron, Renault et de façon emblématique le Sea Moon dans ses différentes versions. Mais de nombreux autres pilotes ont participé à la mise en lumière de ce Sea Moon qui s'est révélé l'avion idéal pour les raids de longue distance, donc de longue durée puisque la vitesse dans cette catégorie d'avions peinait à atteindre le mur des 300 km/h. J'ai fait allusion à certains événements et cité déjà certains pilotes ou équipages qui ont mis en évidence les qualités de cette marque et singulièrement de ce modèle, avec ses dispositions à satisfaire de nombreux usages. Parmi les plus connus, et même encore beaucoup plus connus que Japy, j'ai déjà cité Antoine de Saint-Exupéry qui, pour la postérité, malgré lui et sans le savoir, lui a certainement fait ombrage. Au-delà de sa tentative de lui ravir le record de temps sur Paris-Tokyo, dont nous avons parlé en évoquant son aventure dans le désert, Saint-Ex s'est également illustré dans un autre raid, toujours sur Sea Moon, sur le continent américain. Dans cette partie du monde, il semble que la recherche de raids et de records ne provoquait pas une fièvre aussi aiguë qu'en Europe. Vous vous souvenez que le Sea Moon utilisé pour sa tentative de raid sur Saïgon, le fameux Henry Romeo Yankee, avait été abandonné très endommagé après l'accident dans le désert de Libye, en fait à 200 km environ du Caire. Il semble d'ailleurs qu'il y ait eu un acheteur de l'épave qui fut récupéré ensuite après qu'un enquêteur ait pu en faire l'expertise. La récupération de l'épave a d'ailleurs trouvé sa confirmation grâce à une photo où l'on voit bien le fuselage, moins endommagé semble-t-il qu'on aurait pu le croire a priori. La cellule centrale, celle occupée par les pilotes, semble avoir bien résisté. On ne peut en dire autant de l'avant et de l'arrière. Et, grâce à l'assurance souscrite, Saint-Ex a pu récupérer une indemnité de la valeur catalogue de l'avion telle que déclarée sur le contrat. Pour celui-ci, 128 000 francs de l'époque, que l'on peut traduire en 95 000 euros de l'année 2020. Il peut ainsi revenir chez le constructeur, car le modèle lui convient parfaitement. Alors l'usine Caudron lui affecte un nouvel avion avec un moteur, toujours Renault bien sûr, mais nettement plus puissant. Pour ceux que la précision intéresse, le 6Q09 a remplacé le 6Q01, transformant le 630 en 635. Le nouvel avion est immatriculé ANXK, s'annonçant donc XV Kilo. En début septembre 1936, cet avion tout neuf, rouge à bandes blanches longitudinales, est prêt et le pilote peut prendre possession de son nouvel oiseau. Cet avion, il va l'utiliser très vite. Et l'année 1935 sera très occupée puisque l'homme est toujours en action, éclectique et même un peu dispersé. Une mission pour la jeune société Air France créée 3 ans auparavant pour l'exploration d'une nouvelle route transafricaine. Puis, le journal Paris Soir lui propose un reportage en Espagne sur la guerre civile bigre. 20 000 francs pour 10 articles, c'est bon à prendre quand on a toujours plus besoin d'argent. Son scénario et le repérage du film Courrier Sud l'entraînent au Maroc, dans la région de Mogador. S'ajoutent quelques virées à Amsterdam et surtout en Allemagne. Et là-bas, il prend bien conscience et même peur de ce qu'il ressent en voyant ce qui était l'avant-guerre et les jeunesses hitlériennes. Mais dans tous ses déplacements, il a pu tester son nouvel appareil sur des distances variées et même longues. Et, selon ses écrits, il a pu également faire une belle navigation avec un compas de grand luxe et un dérivomètre perfectionné. Il était très satisfait de la situation et de ses acquisitions pratiques sur le marché américain. Sa proximité sur le terrain d'atterrissage avec des avions modernes à la dimension de l'Amérique lui permettait d'entrevoir des avions de tourisme modernes équipés de gros moteurs, le prix de l'essence ne posant pas de problème de consommation. Il y avait même déjà, parfois, le train escamotable. Le gentil petit Sea Moon lui apparaissait bien modeste. Il est temps de revenir au raid prévu depuis New York vers la Terre de Feu. Mais le Simoun doit donc aller en Amérique et bien sûr d'abord traverser l'Atlantique. Il est soigneusement démonté, mis en caisse et embarqué sur le paquebot Île-de-France. Saint-Ex et André Prévost, son fidèle mécanicien, sont à bord bien sûr. Après 4 ou 5 jours de navigation, l'avion est déchargé à New York pour être transporté sur l'aérodrome de Newark, à 25 km à l'ouest de la grande ville, dans l'état voisin de New Jersey. Et pour ce faire, il a fallu résoudre le sujet de la caution, énorme, exigée par les douanes. Problème, si l'on ne perd pas de vue, les problèmes de budget récurrents de Saint-Ex. Des contacts, des rencontres, et une solution est venue avec l'apparition d'un sponsor de dernière heure, le pétrolier très important, la Mobil Oil. Sous la conduite et avec la compétence d'André Prévost, le Simoun sera remonté dans un hangar et mis au point en un mois. Et le vol lui-même demande à être mis au point. La route à suivre, la météo et les escales. S'informant auprès de spécialistes de la compagnie Pan American Airways rencontrée sur place et qui exploitait une ligne vers le sud une fois dépassé le Texas et en direction du Mexique jusqu'à Veracruz sur la côte du golfe du Mexique, il adopte le projet d'itinéraire suggéré par ses connaisseurs. À la date prévue et dès le début du jour, on est en hiver, puisque l'idée est de pouvoir voler le plus longtemps possible de jour et de limiter ainsi les temps d'escale et de ravitaillement, l'équipage décolle de New York. Après la nuit passée à Veracruz, il atteint rapidement Guatemala City. Jusque-là, tout va bien. Il préfère écarter l'idée d'atteindre Bogota en Colombie. C'est loin, c'est haut, et il faut se méfier des Andes à la nuit. Il vaut mieux se poser au Panama. Après un court déjeuner, donc tout en début d'après-midi, décollage. Et en quelques secondes, c'est la fin du voyage. L'avion n'arrive pas à prendre de la vitesse, donc à se lever. Et en bout de piste, la manœuvre désespérée du pilote pour décoller, malgré la faible vitesse, est un échec. Et les différents chocs sont terribles, notamment à la fin contre un bloc de ciment. On n'a pas de certitude sur les causes exactes de l'accident. L'avion était chargé, certes, les conditions météo, la température et l'altitude du terrain, la piste en légère pente sont des éléments défavorables. On a aussi parlé d'erreurs sur les quantités de carburant avec une confusion entre la réalité des litres et des gallons lors du ravitaillement et du remplissage des réservoirs. Saint-Ex et Prévost sont très sérieusement blessés, mais heureusement l'avion n'a pas pris feu, car bloqué comme il l'était dans la carcasse, il n'aurait pu être dégagé à temps. Un long séjour à l'hôpital de Guatemala City va être nécessaire. Le temps libre de sa longue immobilisation et sa convalescence n'est certainement pas perdu pour cet homme toujours en effervescence, si on en juge par l'inspiration qui transpire, si je peux dire, dans son livre « Terre des hommes ». Un autre pilote de renommée a eu l'occasion de se mettre en évidence à bord d'un Simoun. Il s'agit du grand Marcel Doré qui est, pendant de longues années, le pilote emblématique des 1000 de Watine. Après avoir servi dans l'artillerie lors de la Première Guerre mondiale, ce Toulousain du Vernet s'est formé à l'aviation de chasse et d'acrobatie de Pau. Au cours de meetings où sa maestria en acrobatie fait des merveilles, il sera repéré par Émile de Watine, qui l'engage comme pilote d'essai. Jusqu'en 1949, il aura testé tous les avions gros et petits de ce constructeur, tout en n'oubliant pas de se produire en exhibition de voltige, où il avait un sens très aigu du spectacle. Et ces avions portaient le plus souvent des bandes rouges obliques et parallèles sur les ailes. Mais pour lui aussi, les années 30 sont celles des records et des raids, et il s'y est déjà essayé bien avant avec le trait d'union. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il ne prétende pas se mêler à cet engouement de nouveau. Il n'est donc pas étonnant qu'il veuille lui aussi tenter le raid Paris-Tokyo. Bien sûr, il adopte le codon Simoun. C'est le FANXM, donc X-Mike. Et naturellement, les ailes de cet avion sont revêtues des bandes rouges obliques dont il fait décorer traditionnellement ses avions lorsqu'il vole en meeting, où il attire les foules avec ses exploits d'acrobatie. Il est accompagné de son navigateur François Michelletti et le 20 janvier 1937, il décolle avec cet objectif. On n'a que peu de détails sur ce vol et son itinéraire, mais on apprend qu'après avoir déjà effectué plus de 10 000 km et approché de Hanoï, la météo indique une très mauvaise visibilité sur la suite du parcours. Il se décide alors de faire demi-tour d'attente et de se poser sur un îlot. Malheureusement, l'atterrissage est difficile et Doré endommage très sérieusement son appareil. Il sera obligé d'arrêter là sa tentative. J'allais dire sa première tentative, car connaissant l'homme, on peut se douter qu'il ne va pas baisser les bras. Il prépare donc une deuxième tentative, toujours avec Michelletti. Dans son livre « Trait d'union avec le ciel », il écrit qu'il voulait consacrer ses vacances à un grand voyage et qu'il a dit à son coéquipier François Michelletti, qu'il a surnommé Mickey, « Nous allons essayer une liaison Paris-Tokyo, mais je veux tout de même que cette tentative ne comporte pas trop de risques. Nous ne serons pas téméraires. » Pour ma part, je ne suis pas très convaincu de cette affirmation écrite bien après les événements. L'idée d'assimiler cette tentative à un voyage agrément ne correspond guère à un candidat s'investissant dans un tel projet ou un autre. D'autant que d'autres articles de journaux lui font parler de « foncer ». En réalité, c'est une compétition et même pour lui personnellement une revanche. Japy, en l'occurrence, avait échoué puisqu'il n'avait pas atteint la capitale du Japon. On pourrait se demander pourquoi il n'essaie pas un autre modèle lorsqu'il indique qu'il va repartir avec un autre Simoun, le FAPMS Mike Sierra. Toujours dans son livre, ce brillant pilote d'essai, habitué à passer d'un avion à l'autre pour en tirer ses qualités, explique comment et pourquoi il a choisi le Simoun. Il parle de sa rencontre avec le directeur de la société Caudron Renault, M. François Lehideux, personnage important que l'on verra par la suite à la direction de Renault, et à qui il s'est adressé pour acquérir, je le cite, « cet appareil remarquable parfaitement au point dont les qualités d'exploitation étaient bien mises en lumière ». Cet appareil donc qui est le Simoun. Il ajoute d'ailleurs qu'il a obtenu de lui l'appareil à des conditions absolument exceptionnelles. Le départ de cette deuxième tentative est fixé au 22 mai 1937. Je vous le raconte à notre prochain rendez-vous. À bientôt sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Altitude.